Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec Tati Mapoukou. Okapi.
Chers auditeurs, auditrices des radios Okapi, bonjour et bienvenue dans notre magazine Okapi Service, votre émission qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les défis à relever dans la prise en charge médicale des patients vivant avec le VIH-Sida en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Dr Félix Ekoufo. Il est médecin directeur adjoint du programme national des luttes contre le Sida. Bonjour Dr Félix Ekoufo et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'avoir été avec nous. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos commentaires par le numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires d'Ismaël qui soutient que le financement qui est déboursé chaque année pour les actions de lutte contre les VIH-Sida, chose grave que cet argent est consommé par les grands personnages qui sont au programme et les victimes n'en bénéficient presque pas de cette assistance. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce Vezolo s'occupe de la réalisation de l'émission. Jean-Claude Tiala est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Retrouvez le flash info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le flash info de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord?
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quels sont les défis à relever dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie du magazine Okapi Service. La journée mondiale des luttes contre le sida célébrée le 1er décembre de chaque année est une occasion de sensibiliser sur la pandémie mondiale du VIH-Sida, ses impacts et les progrès réalisés pour la combattre. Elle met également en lumière l'importance de la solidarité mondiale et de l'accès équitable aux soins de santé qui est un droit humain fondamental. En RDC, les défis liés à la stigmatisation et à l'accès aux soins sont encore très importants selon nos sources. Quels sont ces défis et les autres défis au fait et que faut-il faire pour trouver des solutions à ces défis? Nous en parlons avec Dr Félix Ekoufo. Il est médecin directeur adjoint du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Dr Ekoufo, dites-nous, réellement, il y a des défis à relever concernant surtout l'amélioration des conditions d'accès aux soins médicaux des PVV en RDC. Docteur Ekoufo, est-ce que vous m'entendez? On va essayer de rappeler Docteur Ekoufo parce que la liaison s'est interrompue. Et donc, je disais que la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée le 1er décembre de chaque année. On me signale que Docteur Ekoufo est là. Est-ce que vous me recevez, docteur?
Oui, mais j'étais en précoupé. Je ne sais pas si vous voulez répondre s'il y a un sujet abordé.
Parfait. Je relance la toute première question. J'ai dit, est-ce que vous confirmez que réellement il existe des défis à relever dans le cadre de la prise en charge médicale des patients affectés par le VIH-Sida en RDC?
Ok. Je pense que toute œuvre humaine a toujours des problèmes. Mais de toutes les façons, à l'heure qu'il est, les données à notre connaissance font montre qu'il n'y a pas de problème par rapport à la prise en charge médicale dans toute l'étendue de notre République, parce que la prise en charge est beaucoup plus focale, médicale est beaucoup plus focalisée par les médicaments, et nous n'avons aucun signe qui nous montre qu'il y a rupture des stocks de médicaments par-ci par-là. Et de cela, je pense que par rapport au triple objectif 95, le deuxième 95 qui concerne la mise des malades sous traitement, nous sommes au-delà de ce qui est même demandé sur le plan global. Donc nous sommes à 98% des malades qui sont mis sous ARV, ce qui fait que pour nous, c'est un bon record.
Oui, mais docteur, nous savons que l'accès, par exemple, aux ARV en milieu reculé, dans l'arrière-pays, est assez limité pour les patients, surtout dans les zones rurales. Hein, où, et puis, il y a aussi la dimension des infrastructures de santé qui sont souvent sous-équipées et le manque du personnel qualifié dans les cadres de la prise en charge médicale des patients PVV.
Non, je pense que ça ce sont des théories qu'on développait il y a plusieurs années. Hein. Pour le moment, on a simplifié les choses, tel point que l'accès est devenu trop facile. C'est-à-dire qu'on a mis en place une stratégie testée-traitée. Une fois que nous avons un malade déjà testé, il doit être traité. Et par rapport au diagnostic, avant on utilisait beaucoup de tests et beaucoup de temps pour avoir les résultats. Maintenant, avec nos tests rapides, on a directement les résultats les mêmes jours, et l'exigence est qu'on donne les médicaments les mêmes jours. Et comme nous avons déjà des traitements standards à tout le monde par rapport à ces traitements, il n'y a pas assez d'exigence pour que ce soit seulement un médecin ou une personne qualifiée pour le faire. Je pense même les infirmiers qui sont là, ils le font sans problème. Sauf s'il y a des effets secondaires, s'il y a des problèmes liés à la personne, c'est à ce moment-là qu'on cherche un recours à une spécialisation.
Et à propos de l'accès aux ARV en milieu reculé?
Les ARV, à l'heure qu'il est, en tout cas, je vous donne avec beaucoup de certitude, parce que nous avons des bailleurs de fonds, il y a le Fonds mondial qui intervient à travers Cordes. Il y a aussi le PEPFAR qui prend les trois provinces, Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa, une bonne partie de Kinshasa. En tout cas, aucune rupture de stock n'a été signalée, et tous les sites où nous avons mis les ARV ont les médicaments, et il ne se pose pas un problème par rapport à l'accès aux médicaments.
Pouvez-vous, docteur Ekofo, nous faire une idée sur l'approche qui est menée dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida ici en RDC, en milieu rural, parce que de plus en plus, on parlait de la ruralisation du VIH-Sida, et avec l'avènement de COVID-19, il y a eu un ralentissement dans le cadre de la sensibilisation. Ça, on le sait tout le monde.
Je pense que la ruralisation n'a pas changé, parce que même les données de l'EDES que nous avons, c'est beaucoup plus le milieu rural qui présente les cas. Donc ce qui fait que notre souci, et depuis tout ce temps-là, c'était d'aller plus vers les malades, et c'est pour cela que nous avons mis des centres de traitement jusqu'au niveau un peu les plus reculés. Il se pose peut-être un problème parce que dans toutes les structures, on ne les met pas, mais au moins dans une zone de santé, on peut avoir une couverture totale qui donne 3-4 aires de santé, doivent avoir au moins un centre de traitement qui soit bien. Mais donc, c'est pas que les médicaments sont disponibles dans tous les centres, mais en tout cas, dans les centres où nous avons besoin d'avoir ces médicaments, partout il y en a. Il n'y a pas obstacle.
Ah, ça c'est très bien. Et il y a aussi la dimension dans le cadre des difficultés, des défis au fait, il y a aussi la dimension stigmatisation et discrimination des patients PVV. Et dites-nous, quel état de lieu faites-vous concernant ces problèmes?
En fait, je pense que là nous sommes vraiment en période au mois de décembre, et généralement le 1er décembre est une journée dédiée à la lutte contre le VIH. Chaque année, nous avons des sujets à aborder. Il se pose toujours ces problèmes-là de discrimination et de stigmatisation, mais c'est beaucoup plus la population elle-même par rapport à la situation. Mais en tout cas, en milieu hospitalier, je pense que la situation du VIH ne pose plus problème par rapport à ça. Et cette fois-ci aussi, aussi cette année, nous avons pris comme thème « Suivons les chemins des droits ». Et quand on parle des droits, c'est-à-dire que les PV, la personne PVV a ses droits et que nous voulons lutter contre la stigmatisation et la discrimination, non seulement vis-à-vis de la population, vis-à-vis du personnel, aussi vis-à-vis des autorités et de toutes les personnes qui entourent les personnes vivant avec les VIH. Donc les thèmes de cette année est aussi bien pointé.
Et dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation, ou pour éviter à ce que les patients n'aient pas facilement accès aux ARV, je me rappelle avoir été en reportage avec Renouac qui a mis en place des points de distribution des ARV à travers par exemple la ville de Kinshasa. Est-ce que ces programmes continuent à exister?
Le programme a pris les extensions même au niveau des provinces. Et là aussi, c'était pour l'objectif principal, c'était de réduire le temps de visite au niveau des secteurs de santé. Il ne faut pas que la personne vienne et arrive, qu'on lui prenne 3 heures, 4 heures pour avoir accès aux médicaments. C'est pour cela que nous avons fait un système de réseau. Et là, je pense que le système là évolue de telle sorte que les médicaments peuvent être livrés dans la communauté avec nos centres qui sont implantés. Donc, il y a aussi des réseaux des PVV, 5 personnes peuvent se regrouper. Mmh. Je pense un à un peut venir prendre les lots de 5 à 6 personnes les mois. Et que je pense que si la personne là est dans un réseau, il peut arriver au niveau de la structure. S'il n'a pas d'autres maladies, problèmes, il n'a pas d'autres problèmes médicaux, il peut arriver peut-être une fois l'an au niveau des structures. Mmh. Donc, ce sont des stratégies que nous avons fait pour vraiment aider à ce que la population ne puisse pas avoir aussi la stigmatisation, parce que de temps en temps qu'ils arrivent au niveau des structures, on les pointe des doigts, on parle un peu de ça. Mais c'est une stratégie, je pense que c'est une stratégie qui nous a beaucoup plus aidé, et c'est d'application jusqu'à présent.
Est-ce que dans ces podis, les points de distribution des ARV, les patients également se soutiennent psychologiquement? Il y a également des animations sur comment prendre les médicaments, l'hygiène de vie à observer lorsqu'on est patient PVV, docteur?
Oui, l'organisation est telle qu'il y a des leaders parmi les gens parmi les pères éducateurs de PVVIH, et ces leaders-là ont comme rôle l'encadrement des autres nouvelles personnes qui arrivent pour vous les traitements. Au départ, je pense qu'il y a c'est une organisation interne. Il y a des séances de sensibilisation, il y a des séances d'animation, il y a des séances de renforcement psychologique et autres. Je pense que tout ça, ça s'est fait au niveau des podis, et ça s'est fait par les populations clés, les populations PVVIH elles-mêmes. Donc là, je pense qu'il n'y a pas assez de problèmes par rapport à ça. Les podis évoluent bien, sauf qu'il y a un tout petit peu de problèmes parce que nous n'avons pas une couverture vraiment totale compte tenu des moyens financiers. C'est pas une stratégie qui a une couverture totale, mais ça évolue. Ça évolue aussi bien surtout à Kinshasa et dans d'autres villes grandes comme Lubumbashi, Goma et ailleurs.
On vous garde en ligne, docteur, le temps d'aller au standard pour donner la parole aux auditeurs qui appellent de partout à travers la République. Donc, quels sont les défis à relever dans le cadre de la prise en charge médicale des patients PVV en RDC? Nous tournons cette émission à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les VIH-SIDA, commémorée le 1er décembre de chaque année. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour partager avec nous l'expérience concernant l'accès aux soins à cette maladie au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Le premier auditeur, il nous appelle depuis la ville de Bounia. Nous sommes là, en Ituri. Il s'agit de Monsieur Justin. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati. Bonjour au docteur et aux auditeurs, auditrices de Radio Okapi.
On parle des défis à relever dans la prise en charge médicale des patients PVV. Vous avez un commentaire précis à ces sujets?
Merci Monsieur Tati pour la parole. Ouais, je dirais qu'en RDC, le taux de personnel vivant avec le VIH-Sida ne fait qu'augmenter jour au jour. Monsieur Tati, le système sanitaire congolais ne permet ni à être en charge d'abord des victimes de VIH-Sida. L'État congolais, depuis 2010, a connu des perturbations politiques des institutions, ce qui a fait que la sensibilisation contre cette maladie soit en tout cas presque négligée du personnel qualifié, hein, les moyens financiers, il y a les infrastructures viables, il y a les partenariats sincères entre le Congo et ses semblables partenaires. Monsieur Tati, à cela, j'ai plusieurs questions. Je ne sais pas si le docteur, en tout cas, aura le temps de répondre à toutes les questions. La première est celle de savoir quelle est la statistique entière des personnes vivant avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo. La deuxième, après l'évaluation, cela peut être les champs entre quel âge qui est beaucoup plus attrapé par cette maladie. Et qui sont, par exemple, monsieur Tati, les plus victimes? Et est-ce que les jeunes, les adultes? Parce que lorsque nous voyons ici à Bounia, voyez, à Bounia, les jeunes gens, monsieur Tati, utilisent les préservatifs, voyez, les condoms, pour s'épargner des grossesses non désirées. Mais les jeunes ne craignent plus le VIH-Sida. Moi, ça m'étonne. Alors que le VIH-Sida, c'est une maladie très dangereuse. C'est une maladie. Il y a même, comme le fait que nous sommes en Ouganda, il y a certains patients, les personnes vivant avec le VIH, ils viennent s'approcher en Ouganda par les médicaments. Il y a certains médicaments que le président ougandais donne aux patients. Et lorsque on comprend que les patients. Et comment c'est maintenant les déranger? On les jette une maladie et les patients parviennent même à mourir. Alors, moi je me demande, pourquoi les jeunes, le gouvernement ne veut pas organiser en tout cas, en fait qu'on puisse éradiquer cette maladie, comme était le cas du coronavirus? La troisième question, M. Tati, la jeunesse qui est plus affectée par cette maladie, pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre des dispositions possibles pour diminuer cette maladie? Parce que lorsque vous voyez dans des hôpitaux ici à Bounia, vous partez à Goma, à Shangani, vous partez à Kasumbalesa, surtout dans des milliers, dans des pays, dans des villes frontalières. Oui, parce que nous voyons lorsqu'il y a des gens qui quittent, par exemple, les gens qui quittent, par exemple, à Kampala, viennent ici à Bounia. Les gens qui quittent, par exemple, au Rwanda, viennent à Goma. Les gens qui quittent, par exemple, vers Kasumbalesa, à la frontière, en Angola, et ainsi de suite. Monsieur Tati, alors, pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre des dispositifs en fait qu'on puisse arrêter cette maladie? Et il y a aussi question de sensibilisation. La vulgarisation, monsieur Tati, nous n'avons pas, en tout cas, de médias qui parviennent à vulgariser les jeunes gens. Et à travers les médias, ou dans les écoles, actuellement, on parle de la politique seulement. On parle de la politique, nous ne sommes pas loin de nous. Alors, les gens, on ne veut pas sensibiliser les jeunes gens, les enfants qui naissent dans des établissements, même dans des églises, que le VIH-Sida, c'est une maladie très dangereuse. Les jeunes gens, comment ils peuvent prévenir de cette maladie? Nous avons aussi la stigmatisation, comme le docteur l'a dit.
Oui, merci beaucoup. Justin Galabia, Justin, s'il vous plaît. Oui, on a compris les questions principales de votre intervention. Donc, l'invité aura le temps de revenir, de répondre une à une à tes questions. Excellente journée. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Je me tourne vers vous, docteur Ekofo. Nous rappelons que vous êtes directeur, médecin directeur adjoint du programme national de lutte contre le sida. Notre auditeur voulait avoir une idée sur la situation épidémiologique de la maladie en RDC.
Ok, je remercie beaucoup l'auditeur. Je pense qu'il a, il est émotionné. Il y a beaucoup de questions, il a beaucoup de problèmes à présenter. C'est tout à fait réel parce que jusqu'à présent, le VIH-Sida est un problème majeur de santé publique. Et nous pensons qu'il a, il a tout à fait raison pour avoir tous ces états-là. Mais de toutes les façons, je vais répondre à toutes ces petites questions qu'il a données.
Je rappelle les questions, docteur. Je rappelle les questions. La première concerne la situation épidémiologique du VIH-Sida en RDC. La deuxième question concerne les tranches d'âge les plus exposées à la contamination. Et puis, il a également fait allusion au déplacement transfrontalier dans la partie est du pays et puis une faible dimension liée à la sensibilisation dans la région de l'Est. On vous donne la parole.
Ok, ça va. Je pense que notre travail comme programme, nous avons tous les statistiques par rapport à la lutte contre le VIH. Mmh. Nous avons des estimations qui nous montrent combien nous attendons et combien sont ceux qui sont déjà mis sous ARV. Pour la mise sous traitement, nous avons autour de 489 000 malades mis sous traitement, alors que nous attendons autour de 520 000 malades qui seront mis sous traitement. Donc, pour les premiers 95, là, le premier indicateur, nous sommes à peu près à 90% des réalisations, ce qui est un bon score par rapport à ça. Et puis, pour la tranche d'âge, pour le moment, il faut savoir que les tranches d'âge les plus infectées, ce sont les tranches d'âge des personnes à l'âge de procréation, les gens qui sont actifs et sexuellement actifs. Et là, vous allez trouver, ce sont beaucoup plus de jeunes entre 20 et 40 ans qui présentent beaucoup plus des maladies. Et les populations les plus touchées, ce sont beaucoup plus les populations clés. Les populations clés, comme il a dit, la plupart des gens n'utilisent plus correctement les préservatifs, alors qu'à un moment donné, c'était vraiment des exigences. Et dans, parmi les populations clés, il y a les PS, les professionnels de sexe. Il y a les hommes qui ont des rapports avec les hommes, il y a les transgenres, il y a aussi les IDI chez eux, parce que nous avons fait des enquêtes là-dessus. On a trouvé que la prévalence chez les PS est autour de 7 à 8%, 7,7%, et chez les hommes qui ont des rapports avec les hommes, c'était autour de 7,1%, c'est-à-dire ça dépasse la marge, la moyenne nationale par rapport à tout ça. L'élimination du VIH, les objectifs sont les objectifs qui nous ont fixés jusqu'en 2030. Mmh. Et je pense en 2030, nous tendons vers cette élimination. Mais je pense que maintenant, il se parle des problèmes de durabilité, parce qu'en fait, la plupart de nos actions sont appuyées, sont extraverties, donc sont reçoivent des financements extérieurs. Et pour le moment, nous voulons assez que les pays s'approprient de toutes ces charges-là d'ici 2030. C'est pour cela que cette année, nous parlons aussi de la durabilité pour faire de sorte que petit à petit, l'État puisse commencer à prendre ses responsabilités. Et c'est ce que nous constatons parce que ce qui est vrai, le gouvernement actuel commence à donner quelques subventions sur tous les fronts, des contreparties par rapport à la lutte contre le VIH. Donc ça aide aussi la population, ça nous aide à parfois à avoir des interventions qui viennent du gouvernement national. Alors, il y a aussi la vulgarisation et la sensibilisation, effectivement. Ça demande aussi beaucoup de moyens, mais comme nous avons des partenaires, je pense qu'on ne peut pas aller des années en années. Nous pensons que nous allons mettre ça dans les programmes avec le gouvernement pour que nous puissions commencer à relancer ou à réactiver encore les activités par rapport à la sensibilisation, parce que ça, il faut le dire, il y a baisse. Avec les pays étrangers, les pays frontaliers, comme il a dit, s'il est reconnaissant, je pense qu'il peut reconnaître que la plupart viennent chercher les médicaments plutôt chez nous. Donc la plupart de ces pays-là, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie et autres, la plupart des malades viennent chercher les médicaments. Et ce sont des débats que nous avons dit. Mmh. À un moment donné, nous laissons quand même une image pour ne pas laisser quelqu'un n'est pas péril. Ils viennent chercher plutôt les médicaments chez nous. Bien sûr que nous savons que nos infrastructures ne sont pas de qualité, il n'y a pas aussi de formation typique pour, par rapport au VIH, mmh. mais quand même, nous avons les nécessaires, plus que nécessaires pour avoir des médicaments et mettre tout le monde sous ARV. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est que je pouvais peut-être activer à ce niveau.
Merci beaucoup pour ce détail, docteur Ekofo. Félix, nous rappelons que vous êtes le directeur, le médecin directeur adjoint du programme national de lutte contre le sida. Dites-nous, docteur, concernant la transmission, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, quelle approche utilisez-vous sur l'ensemble du territoire national?
En fait, l'approche que nous avons maintenant, c'est l'approche ciblée. Et les femmes enceintes sont, ont une place de choix par rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons parmi les périodes, parce que par semaine, on organise les séances de CPN dans les structures de santé, et nous avons au moins une journée qui est dédiée à la lutte contre le VIH. De cette journée-là, nous profitons pour rendre disponibles les tests de dépistage à toutes les femmes enceintes qui viennent nous consulter dans nos structures. Ce qui fait que c'est l'approche-là qui nous donne l'occasion de dépister toutes les femmes. Et à l'heure qu'il est, je pense que l'approche évolue bien.
Est-ce que dans les consultations des CPN, consultations prénatales, vous édifiez également les femmes sur le système de dépistage concernant la prise en charge médicale du VIH mère et enfant?
Oui, je pense que tout ça, ça entre dans les paquets. Mmh. En dehors des dépistages, il y a aussi le paquet de prise en charge qui est fait le même jour que la femme est dépistée au niveau de notre structure. Ce qui fait que, comme j'avais dit, la poche est testée et traitée directement. Toutes les femmes enceintes ont la possibilité d'avoir, qui ont la possibilité d'avoir les résultats, qui sont testés, ont la possibilité d'avoir les médicaments le même jour. Mais les grands défis par rapport à nous, c'est les cas de dépercussions, c'est-à-dire qu'il y a de ces femmes-là qui d'emblée, même si vous faites les consignes, même les, ils vous disent non, je vais venir demain, je vais venir après demain, et puis il y a des cas qui se perdent comme ça, et puis c'est-à-dire qu'il a pas, il ne s'est pas préparé pour avoir les traitements. Donc il y a des cas de des percussions comme ça, il y a aussi des cas de percussions par rapport au suivi de l'enfant aussi. Donc vous voyez une femme qui a été dépistée et directement il rate.
Allô, docteur Félix?
Oui, je pense que je suis suivi.
Oui, il y a eu une petite coupure, micro-coupure là. Vous disiez qu'il y a des cas de femmes qui se soustraient du suivi médical.
Non, c'est-à-dire que le paquet est là, mais la femme dit « je ne suis pas prête, il faut que j'aille demander d'abord à mon mari, et puis le lendemain peut-être il ne voit pas, et puis il ne revient plus ». Donc à ce moment-là, ce sont des choses qui ce sont des cas de répercussions qui nous dérangent par rapport à cette stratégie-là, parce qu'en fait, dans beaucoup d'autres pays où les choses ont avancé, on demande à ce que la femme soit accompagnée par son mari, et directement vous avez votre décision finale en séance tenante. Mais il se fait qu'ici au Congo, je pense que la plupart des hommes, et même je pense que nos auditeurs, ils peuvent se faire à témoin, n'accompagnent pas les femmes dans les séances de CPN. Et cela fait qu'il y a parfois des femmes qui sont dépistées VIH positives, et comme on demande le consentement, elles partent et pour ne plus revenir, et des fois on les cherche, des fois elles changent d'adresse et ça pose un autre problème par rapport à ça. Donc il y a des cas des personnes qui sont dépistées, puis c'est VIH possible, mais qui ne suit pas le continuum des soins parce que seulement il a peur de la stigmatisation, il a peur des milliers, il a peur du personnel médical et autres. Ce ne sont pas sur des cas rares qui arrivent aussi parfois.
Docteur Félix Ekofo, un autre problème également, c'est ça concerne les enfants dont les parents sont décédés, les enfants mineurs dont les parents sont décédés du VIH-Sida. Est-ce que le PNLS s'occupe également de cette catégorie d'enfants vulnérables?
Oui, je pense qu'il y a, comme vous avez parlé, le programme national de lutte contre le VIH s'occupe beaucoup plus des aspects médicaux. Mmh. Donc des aspects médicaux par rapport à ces activités. Mais il se fait que il y a aussi des orphelins et autres qui il y a des zones, je vois les PNMLS aussi, mmh, qui s'occupent beaucoup plus de ces aspects-là. Mmh. Mais je pense que ça évolue, mais vous voyez, donc les grands problèmes, c'est les moyens financiers. Mmh. Des fois, il y a pas assez de moyens, et c'est pour cela qu'on intervient à d'autres personnes. Mais en tout cas, nous, du Programme National de lutte contre le sida, nous voyons beaucoup plus les aspects liés au secteur médical, donc au médical, à la santé, aux médicaments. Mmh. Mais nous ne négligeons pas aussi les aspects liés aux orphelins et autres. S'ils ont besoin des médicaments, on les teste. Si on a besoin des tests, on les fait. Mmh. Mais pour la prise en charge vraiment holistique, c'est-à-dire la prise en charge psychologique, la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge, la prise en compte dans la communauté, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont d'autres spécialités par rapport à nous.
On vous garde en ligne, docteur Félix Ekofo. Nous rappelons que vous êtes médecin directeur adjoint du programme national de lutte contre du programme national de lutte contre les SIDA. Nous allons partir à Lubumbashi pour donner la parole à Monsieur Pierrot, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Oui, c'est Pierrot Mpagna. Je dis, il y a des questions techniques que l'invité est en train de trop parler, mais je lui demanderai aussi, parce que c'est un sujet aussi éducatif, mmh, où nous pouvons aussi apprendre à ceux qui ne comprennent pas des mots trop lourds là. Il peut commencer aussi à appliquer d'autres mots qui vont faire à ce que ceux qui nous entendent puissent comprendre aussi quelque chose. Moi, je parle en tant que technicien parce que je suis dans une structure où on avait un programme avec AICAP. Quand je parle de AICAP, lui, l'invité la connaît. C'est quoi? Cette ONG était venue, il prenait en charge le PVV et aussi faisait la prévention. Donc aujourd'hui, après l'arrivée du Covid, nous avons constaté que le même partenaire là avait rompu son projet pour prendre les projets du Covid. Et actuellement là, on n'a aucun intrant de lutte contre le VIH/SIDA. Or, je peux dire entre 2016, 2017, 2018, on faisait même de sensibilisation dans des écoles, dans des universités, même si on prend les cours, on donne les cours, on initie des cours de VIH dans des universités, mais ça ne va pas plus motiver les étudiants à s'abstenir. Nous, on partait aussi faire des sensibilisations bouche à bouche dans des universités, des écoles, pour montrer à des personnes avec des matériels. On prend des préservatifs masculins, féminins, on montre comment porter, parce qu'il a dit qu'actuellement, les gens ne les mettent pas trop bien. Mmh. Mais vous voulez que ces gens-là puissent utiliser bien pendant que on ne voit pas la sensibilisation sur terrain. C'est ça les grands problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui ici, on n'a pas de préservatifs pour faire le test de HIV. Il faut aller acheter. Vous achetez. Et lorsque vous avez des malades, vous transférez. Ça devient un handicap. De deux, c'est quelque chose que nous avons vu. De deux, nous avons ici des centres. Parce que nous avons des zones de santé où une zone de santé comme la Roissy, j'ai toujours insisté, il n'y a qu'un seul hôpital. Et cet hôpital-là, vous trouvez, il gère le tuberculeux, il gère le PVV. Et si ils n'ont pas un intrant, soit entre celui des PVV ou des tuberculés, ils sont obligés de recourir dans une autre zone de santé qui est un peu loin, comme la zone de santé de Kampemba. Ce sont des cas qui nous échappent. Et des personnes comme ça, ils n'ont pas assez de transport. Ils l'ont mis pour propager aussi ce genre de pathologies. Je voulais lui poser des questions, parce que je ne peux pas monopoliser, comme c'est une émission. Je voulais lui demander, il venait là de dire que actuellement, nous faisons seulement les tests rapides et on confirme le malade peut être soumis directement dans les antirétroviraux. Oui. Si vous parlez comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas nous dire quand est-ce que le programme national de lutte contre le VIH-SIDA programme la formation des personnels d'abord pour sur toute l'étendue de la République? Parce que ce genre de questions, il faut continuer aussi à former les jeunes. Il y a des jeunes personnels qui quittent directement des écoles, mais qui n'ont pas cette expérience-là. Combien vous avez déjà formé de 2020 à 2024? C'est donc de l'apparition du Covid jusqu'à nos jours. Combien de jeunes qui ont terminé leurs études entre ces années-là, de 2020-2024, ont comme expérience quant à ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation n'est pas comme à l'époque où on faisait une bonne sensibilisation. Ça, c'est la première question. La deuxième question était de savoir si, en faisant seulement le test rapide, on confirme et on soumet directement la personne sous les antirétroviraux. Quand est-ce qu'on va faire les CD4? Quand est-ce qu'on va faire les double checks? Quand est-ce qu'on va faire la charge virale? Surtout, c'est la charge virale, et parce que c'est la charge virale qui nous permet aussi à doser, à comprendre est-ce que le virus sont déjà réduits ou ça continue. Par rapport à cette question-là, c'est ce que je voulais qu'il puisse nous expliquer, parce qu'il a dit que non, actuellement, en faisant seulement les tests rapides, on peut directement soumettre. Il doit nous expliquer sur ces programmes-là. Et dans le programme de PTME, programme de transmission VIH entre mère et enfant, pourquoi on met directement l'enfant qui vient de naître? On lui soumet déjà sous les antirétroviraux, qui est un traitement qu'on peut dire curatif, au lieu de lui soumettre dans un traitement préventif, parce que en faisant les tests rapides, c'est comme les tests à isogène. Les tests à isogène sont des tests qui peuvent apparaître positifs, même avec simple grippe, avec d'autres virus. Mais pourquoi aller directement avec un traitement comme ça, que de prévoir un traitement préventif? C'est ça la question que j'avais, je dis et je vois.
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Ce sont des trois questions qui sont très pertinentes. Hein. Docteur Ekofo, avant de répondre aux trois questions de notre auditeur de Lubumbashi, expliquez-nous d'abord, expliquez d'abord aux auditeurs hein, les concepts SIDA, puis VIH-SIDA. La différence, elle est à quel niveau?
Le concept de SIDA et le VIH-SIDA.
Exactement. Quand est-ce qu'on parlait du SIDA? Qu'une personne est contaminée avec le SIDA? Et quand est-ce qu'on parlait du VIH-SIDA?
Non, en fait, il y a des limites. Hein. La personne qui est contaminée du VIH n'est pas un SIDA, n'est pas une personne qui est... Il est porté des virus, mais il n'a pas le SIDA. Il pourra devenir un SIDN, donc il va présenter, quand il présente des maladies, qu'il commence à présenter des maladies dans son corps, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des infections opportunistes, et à ce moment-là, ça montre que l'état immunitaire a diminué, et c'est à ce moment-là qu'il devient une personne SIDN. Donc, si nous voulons seulement compter les personnes qui sont portées du VIH, qui sont nombreuses, mais, en tout cas, ils sont pas les SIDN. Donc, les SIDN, ce sont des gens qui commencent à présenter la maladie, et dans les cas d'espèces, ce sont des infections opportunistes que nous comptons pour les classer dans cette marge-là.
Donc, lorsqu'on est VIH, docteur, on peut ne pas développer le SIDA?
Non, je pense que quand vous voyez l'évolution, quelqu'un peut avoir le VIH et survivre pendant plus de 10 ans sans qu'il présente le SIDA.
Ok.
Donc, il peut aller même autour de 15 ans, il n'a pas présenté, mais malheureusement, les problèmes qui surgissent là-bas, il peut contaminer les autres, il peut contaminer les personnes, mais lui-même ne présente pas la maladie. C'est à ce moment-là qu'on dit que ce sont des PVVIH. Les PV, ce sont des personnes qui sont porteuses du virus, mais qui ne présentent pas la maladie. Ceux-là ne sont pas des SIDA. Mais par contre, quand il va commencer à présenter la maladie, à ce moment-là, il devient un SIDA.
Maintenant, nous revenons sur les questions de Pierrot de Lubumbashi. Test rapide, est-ce que de 2019 à 2024, il va avoir une idée sur les nombres de personnes formées hein, dans le cadre de ces programmes de tests rapides des patients?
Je pense que moi j'ai parlé de la durabilité, bien qu'il ne veut pas utiliser les termes médical, mais lui-même aussi il utilise beaucoup de termes. Notre souci aujourd'hui, c'est que nous voulions c'est que l'État prenne en charge toutes les activités, et c'est ce qui a commencé, parce que dans toute chose il y a un débit. Le débit a déjà commencé, nous voulons que ça évolue, parce que en fait nous n'allons pas commencer à demander à la communauté internationale de venir sensibiliser les populations, de donner les médicaments, de donner nos personnes. Tout ça, si c'est vraiment dépend de l'extérieur, nous aurons toujours des problèmes. Ça, c'est la réalité qui se fait. Mais heureusement, maintenant, le gouvernement a commencé à prendre des responsabilités, commence à mettre beaucoup de paquets dans la lutte contre le VIH. Et cela veut dire que d'ici 2030, peut-être les organisations internationales telles qu'il a cité ICAP là, ce sont des organisations qui ont des projets. Il vient avec un projet d'une année, deux ans. Dès qu'il termine, il ferme, il part. Il vient vous aider parce qu'il y a un problème. Après son départ, je pense que l'État doit prendre les relèves pour continuer avec les mêmes activités que les premiers.
Docteur Félix, oui. Il y a un auditeur qui est en ligne. Je pense qu'on doit retourner au standard et puis revenir ici au studio avec vous. On lui donne la parole comme ça, vous allez et puis je vais retourner pour que vous puissiez épuiser les questions, les réponses aux questions de l'auditeur de Lubumbashi, comment il s'appelle, Pierron Pania, et puis on va avancer. Achille, bonjour et bienvenue dans Capi Service. Vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi, on vous donne la parole.
Bonjour Tati, bonjour à l'invité, bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Oui, je venais de suivre l'invité qui est en train de dire que d'ici 2030, je pense qu'on compte mettre fin, je pense, c'est ça?
L'élimination. On va atteindre le stade de l'élimination du VIH-SIDA, tel que voulu par les ODD.
Ok, quels sont les mécanismes qui comptent utiliser pour finir ça d'ici 2030? Quels sont les mécanismes qui vont utiliser, parce qu'ils ont attendu longtemps et il faut attendre 2030 pour enfin peut-être éliminer ou peut-être atténuer. Quels sont les mécanismes qui vont utiliser? Et je voudrais qu'il essaie un peu de répéter, parce que la répétition est la mère d'une sainte. Alors les modes de contamination, parce que parfois on a toujours tendance à ignorer les modes de contamination. Et je voudrais aussi qui nous disent l'espérance de vie d'une personne atteinte de quoi, de sida. Parce que cette personne peut vivre combien de temps? Je pense que c'est tout ce que je voulais dire, mais je voudrais aussi ajouter quelque chose que les pasteurs, parce que les pasteurs sont les mieux écoutés, parce que quand un pasteur dit, quand un prophète dit, on a toujours tendance à beaucoup croire. Donc eux aussi peuvent faire quand même quelque chose pour contribuer, parce que c'est une affaire de tous. Merci beaucoup.
Je vous en prie, exactement, vous avez raison, cher auditeur, parce que les pasteurs, tout comme les artistes et musiciens, et les comédiens et autres, nous journalistes, nous sommes des leaders d'opinion, donc on a un rôle à jouer dans le cadre de la sensibilisation. Excellente journée au niveau de la ville de Lubumbashi. Docteur Ekofo, je me tourne vers vous. Qui c'est l'auditeur de Lubumbashi, Monsieur Pierrot? Il a parlé des CD4, le test sur la charge virale, le fait de soumettre un individu à un test rapide, et si c'est positif, vous lui donnez le médicament et les autres étapes des tests sont mis de côté ou par la suite le sujet sera soumis à ces tests.
Normalement, je pense qu'il a dit, il a raison, parce que nous utilisons les tests rapides parce que les tests rapides nous donnent la réponse urgente et donc la réponse vite, et nous avons la décision de prendre une position rapidement le même jour. Mais les tests rapides, on n'utilise pas seulement un seul test, nous utilisons trois tests, ce qui fait que le premier test, s'il est positif, on passe au deuxième et on passe au troisième test. Cela ne veut pas dire que quand on teste avec des thermales on confirme, non, on teste avec trois tests. Donc pour les premières personnes dans la sensibilisation, dans les activités, on donne le test test détermine comme un test classique. Et toutes les personnes avec des termes positifs, on les fait passer au deuxième test. Si c'est toujours positif, on les fait passer au troisième test. Mmh. Si l'algorithme nous dit que si nous n'avons pas les premiers, les deuxièmes tests sont positifs et le troisième est négatif, nous sommes obligés de reprendre encore l'examen 14 jours après pour voir si ce n'était pas un autre élément en dehors de VIH. Donc, on suit l'algorithme tel qu'il est tracé par les ministères de la Santé par rapport au gouvernement. Donc, on ne fait pas seulement un seul test pour confirmer. Donc, c'est ça, ce qui est fait. Mais les autres tests qu'il a fait à Lyon, là, ça ressemble au CD4, le CD4 et la charge virale. Les tests, là, sont des tests qui sont un peu plus chers et qui demandent beaucoup plus de matériel pour les faire. Ça ne peut pas se faire dans un centre de santé, ça se fait dans des endroits spécialisés. Comme ils sont à Lubumbashi, ils savent que cela se fait au niveau des grands laboratoires, au niveau de Lubumbashi ville. Ça, on prélève l'échantillon, on amène au grand labo, et le labo nous dit quelle est la situation de ces CD4, il a combien de CD4 dans son corps, donc les anticorps qui luttent contre cette maladie, et la charge virale pour savoir combien est la quantité de virus dans son corps. Cela nous oriente pour savoir si, et cela nous le faisons beaucoup plus pendant que la personne a commencé les traitements, et nous observer pendant 5 mois, pendant 6 mois, pendant une année, pour évaluer si les médicaments là répondent si les maladies répondent aux médicaments, parce qu'il y a des moments où les médicaments, la personne a des résistances par rapport à ces médicaments. Si l'évolution médicale ne va pas bien, on va lui prescrire les CD4 et la charge virale pour avoir les niveaux ou la quantité des virus qui se trouvent dans son corps et la quantité des anticorps qui se battent par rapport à ça. Et cela nous permet peut-être de voir si ça n'évolue pas bien, nous pouvons changer les traitements. Donc lui mettre dans un schéma beaucoup plus approprié, plus avancé par rapport au schéma classique. Vous savez, quand vous demandez quelqu'un les soins à l'extérieur, on vous donne les médicaments standards qui sont efficaces, mais qui peuvent traiter tout le monde. C'est à ce moment-là que quand nous avons des résistances, nous changeons les schémas thérapeutiques pour donner un schéma plus avancé.
Et dans le cadre
aux enfants,
dans le cadre de PTME, il a dit pourquoi est-ce qu'on met directement les nourrissons dont la mère est PVV, on met les nourrissons directement sous ARV.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je pense que quand l'enfant est né, d'abord les premières précautions, nous les faisons avant l'accouchement. Nous donnons les ARV à la maman pour diminuer la charge virale afin que l'enfant naisse sans qu'il soit en contact avec le virus. Donc, si la maman qui a suivi les CPN avant, surtout au premier trimestre, il aura déjà 6 mois de traitement des ARV et à ce moment-là, la charge virale a diminué et l'enfant peut naître sans qu'il soit contaminé. Mais la précaution que nous prenons, c'est-à-dire que dès la naissance de l'enfant, on lui donne quelques gouttes de médicaments, de névirapine, pour éviter à ce que l'enfant, c'est-à-dire que c'est un moyen de prévention. Les traitements de l'enfant, généralement, commencent autour des 18 mois. C'est-à-dire, on observe d'abord si l'enfant lui-même a développé les anticorps, on fait les AID, donc les traitements, lui ne veut pas les termes, mais c'est ça le problème. Donc, on donne les examens appropriés pour voir si les anticorps que vous allez trouver chez l'enfant ne sont pas les anticorps de sa mère. Et si on identifie vraiment les anticorps qui sont là-bas, ce sont des anticorps propres à l'enfant autour de 18 mois, ça c'est au moment qu'on peut les mettre sous traitement. Mais avant la date de 18 mois, je pense que on gère l'enfant pour savoir qu'en tout cas, ça peut être les anticorps de la maman, de l'enfant, et on fait les AID pour voir la charge virale par rapport à l'enfant, mais on donne pas les traitements directement pour l'enfant.
Voilà. Maintenant, je reviens sur les questions de, je rappelle au fait les questions d'Achille de Lubumbashi, qui voulait savoir les mécanismes de prévention contre le VIH et SIDA, et il a voulu se faire une idée également sur l'espérance de vie d'une personne qui a développé le VIH-SIDA.
Ok, je pense que le mécanisme, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un est atteint de VIH, qu'il suit bien son traitement et qu'il est en bonne santé, il n'est plus transmis. Il ne peut pas transmettre la maladie. Donc, il ne transmet plus. Si nous avons la chance de dépister toutes les personnes qui sont PVVIH, qui sont mis aussi sous traitement, à un moment donné, on aura plus de nouveaux cas parce que les malades-là ne vont plus transmettre la maladie. C'est ça les grands principes que nous avons par rapport à ça. Mais les problèmes les plus touchants, c'est que les gens ne veulent pas se dépister. Même si on vous dit que le dépistage là, il est gratuit, mais les gens ont toujours peur de se faire dépister. Ce qui fait que ça crée un peu de problèmes par rapport à ça. Mais si tout le monde se met à dépister, ça peut faire un autre mécanisme que nous mettons, c'est sur les sensibilisations. Mais les sensibilisations, je l'ai dit même, je pense que même vous là, au niveau des radios Capi, s'il faut prendre, bon, peut-être la radio Capi c'est gratuit, mais il faut avoir aussi un espace. Mais beaucoup de radios, on demande l'argent, on demande ceci, mais je pense que les prestataires de soins et tout ce qu'il y a ne peuvent pas vous le faire passer tous les jours là en train de faire ça. Mais nous le faisons auprès des populations à risque. C'est les populations clés qui ont beaucoup plus de risques et nous les faisons régulièrement parce que nous avons chez eux la prévalence est beaucoup plus élevée et ils sont des populations qui, une fois négligées, ils peuvent encore renaître encore l'épidémie au niveau très avancé, alors ça pourra encore nous faire revenir à la case du départ. Donc, c'est ça les stratégies que nous mettons.
Oui, on me signale qu'il y a un auditeur qui est en ligne, Antoine Béchindo. On est malheureusement coincé par les temps. Je pense qu'on peut lui donner ne fût-ce qu'une minute. Hein. Monsieur Antoine, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. Bon.
Merci, je vous félicite pour l'émission. Je suis Antoine Bétine, comme vous l'avez dit. J'ai une question à vous poser.
Rapidement.
Récemment, on venait d'apprendre avec surprise que le médicament ou les produits pharmaceutiques mis à la disposition des gens qui ont le VIH-Sida ont pris de l'ascenseur. Ma question est celle de savoir quelle est la responsabilité de l'État pour aider ces gens-là à vivre un peu longtemps, à croire à leur vie. C'est ma question.
Merci beaucoup, M. Antoine. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Docteur Ekofo, comment répondez-vous à la question de M. Antoine? Et puis, quel est le message que vous avez à lancer à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH, célébrée le 1er décembre dernier? À vous la parole.
En fait, sa question répond à la première question qu'on n'a pas répondu, l'espérance de vie. Si la personne commence les ARV tôt, et nous avons déjà des gens qui ont fait 20 ans en train de suivre les médicaments, il n'a jamais posé de problème. Il est sous ARV depuis 20 ans. Donc, c'est dire que on peut, avec les ARV, prolonger la vie même 20 ans après. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait 15. Et je pense que les ARV nous ont vraiment beaucoup aidés par rapport à la lutte contre le VIH. Vous savez, vous-même, quand on n'avait pas les ARV, quelqu'un qui apprenait son tati sérologique à l'hôpital n'y sortait plus. Donc il y avait des gens qui sont morts à l'hôpital seulement parce qu'on disait VIH est égal à la mort. Mais pour le moment, avec les ARV que nous avons, ça nous aide à avoir une espérance de vie beaucoup plus élevée par rapport à ces molécules que nous avons. Alors le message que je peux donner à la population, nous avons dit bien que là, cette année, les grands défis, c'est nous avons comme thème suivant les chemins des droits. C'est dire que nous devons nous respecter mutuellement. La personne qui a le VIH ne l'a pas voulu. Il n'y a aucune personne qui, on peut lui dire, en tout cas aujourd'hui, venez, vous faire contaminer du VIH, ils ne l'ont pas voulu. Et comme on a parlé des différentes façons de se contaminer, il n'y a pas seulement les rapports sexuels dans le VIH, il y a aussi les objets suyés. Donc, vous pouvez utiliser un couteau, vous allez utiliser une lame de rasoir, vous allez utiliser quelque chose qui a déjà été contaminé, vous allez la faciliter d'atteindre, d'avoir les ARV. Donc, il y a des gens qui ont les ARV, qui ont les SIDA indépendamment des, par exemple, un enfant, par exemple, qui a hérité ça de ses parents, on va les rejeter? Non. C'est pour ça que nous disons, si on respecte les droits, comme le terme le dit, en tout cas, nous allons nous respecter et nous allons respecter les personnes vivant avec le VIH. Ça va nous aider à ce que nous puissions vraiment bien lutter avec cette maladie.
Nous les considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup, docteur Félix Ekofo. Nous rappelons que vous êtes médecin directeur adjoint du programme national de lutte contre le SIDA. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Excellente journée.